pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique romaine pour le quatrième dimanche de Pâques. Les Judéens disent à Jésus,
« Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspens? Si tu es le Messie, dis-nous-le clairement. »
Jésus leur répond,
« Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les actes que je fais au nom de mon Père, ce sont eux qui témoignent de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mon troupeau. Ceux de mon troupeau écoutent ma voix et moi je les connais, ils marchent à ma suite. » Et moi, je leur donne la vie du temps à venir. Jamais ils ne se perdront pour le temps à venir et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. »
Alors les Judéens ramassent des pierres pour le lapider.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà une parole que nos oreilles chrétiennes sont peut-être trop habituées à entendre, si bien que nous n'en saisissons pas toute la portée. Comment cette affirmation pouvait-elle être comprise des contemporains de Jésus? Quel sens pouvons-nous aujourd'hui lui donner? Cette déclaration de Jésus s'appuie sur l'image du pasteur et de ses brebis. Que signifiait cette image aux oreilles des compatriotes de Jésus?
Eh bien, voilà quelques-unes des questions auxquelles ce texte, en effet, peut nous conduire. Mais voyons d'abord où il se situe dans le récit évangélique de Jean. Nous sommes probablement dans les dernières semaines du ministère de Jésus. Celui-ci s'affronte de plus en plus à l'hostilité de l'élite religieuse de Jérusalem. Voyons d'ailleurs la progression de cet affrontement dans le récit. Au chapitre 7, on nous indique l'hésitation de Jésus à monter à Jérusalem.
Jésus ne voulait pas circuler en Judée, parce que les Juifs cherchaient une occasion de le tuer.
Le récit situe cet épisode à quelques jours de la fête des Tentes, soit vers la fin de septembre. Jésus se décidera finalement à monter à Jérusalem, mais discrètement. Parmi les pèlerins, beaucoup le cherchent. On parle de lui, mais en secret, par peur des autorités. Puis, c'est au milieu de la fête que Jésus vient enseigner dans les parvis du temple, et devant le succès de son enseignement auprès des foules, les grands prêtres envoient des gardes pour l'arrêter, mais ceux-ci reviendront sans Jésus. « Jamais homme n'a parlé comme cet homme », déclare-t-il. Les discussions reprennent chaque jour dans le temple, elles tournent autour de l'identité de Jésus, et la question qui revient sans cesse, c'est « Qui es-tu ?» Les pèlerins, les gens de Jérusalem, se demandent s'il est possible que cet homme soit le Messie, d'où lui vient tout ce qu'il sait, lui qui n'a pas étudié. Et les miracles qu'il fait ne prouvent-ils pas qu'il est le Messie? Jésus répond toujours en se situant par rapport à Dieu son Père.
L'enseignement que je donne n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même, et celui qui m'a envoyé est la vérité. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. J'annonce ce que j'ai vu auprès de mon Père. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti.
Eh bien, comment se situer par rapport à ces réponses de Jésus? Ou bien, cet homme dit vrai et alors il est essentiel de l'accueillir et de l'écouter, puisque c'est Dieu lui-même qui parle par sa bouche. Ou bien cet homme divague et n'est pas saint d'esprit, et les responsables religieux ont alors le devoir de le discréditer auprès des foules. Ils iront d'ailleurs jusqu'à le traiter de samaritain, c'est-à-dire d'hérétique, et même de possédé du démon. À plusieurs reprises, on veut d'ailleurs le saisir et même le lyncher. Le chapitre 9 met en scène ceux qui vont accueillir Jésus comme Messie et qui vont être symbolisés par l'aveugle, l'aveugle qui va recevoir de nouveau la vue. Et le récit mettra en scène aussi ceux qui vont le refuser, et ceux-là vont être identifiés par les pharisiens. Le début du chapitre 10 reprend cette description, mais sous une autre image, celle du pasteur que Jésus est, un pasteur qui va être suivi par les brebis qui sont de son troupeau. Les Judéens qui vont écouter Jésus dans le temple lors de la fête de la dédicace vont reposer clairement la question qui sous-tend tous ces chapitres.
Jusqu'à quand tiendras-tu notre haleine en suspens? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement.
Ces échanges entre Jésus et ses adversaires ressemblent déjà d'une certaine manière à l'échange que Jésus aura avec le grand prêtre lors de sa comparution devant le Sanhédrin. Dans les récits synoptiques, c'est en effet la même question qui sera posée par le Dieu vivant. Je t'ordonne de nous dire si tu es toi le Messie, le Fils de Dieu. Eh bien, il nous faudra approfondir la réponse de Jésus. Mais auparavant, reprenons conscience de l'importance que cette question avait pour les contemporains de Jésus. Le Messie est en effet, à l'époque, l'objet d'une attente très grande de la part des foules, car le pays est occupé depuis bientôt 100 ans, les pauvres sont nombreux à souffrir de la faim. Les nationalistes, on pourrait dire, les plus fervents, supportent de moins en moins l'absence de liberté, ainsi que toutes les humiliations que l'occupation romaine entraîne. Par contre, les autorités en place, qui collaborent plus ou moins avec les Romains, craignent surtout un soulèvement populaire, car celui-ci provoquerait la réaction immédiate de Rome, l'écrasement du soulèvement, une répression plus grande, voire même l'abolition des quelques privilèges que le pouvoir romain accorde encore aux grands prêtres.
Qu'est-ce que le Messie?
Eh bien, à l'époque de Jésus, il est attendu comme l'homme que Dieu va choisir et consacrer pour diriger son peuple en son nom. Il est vu comme le roi lieutenant, le roi vicaire du seul vrai roi qui est Dieu. Il pourrait être d'ailleurs aussi un grand prêtre, puisqu'alors les grands prêtres restent le seul pouvoir que les Romains ont accepté de conserver. En Judée, le pouvoir politique est en effet exercé directement par un délégué de l'empereur Pilate, un Romain. Le mot juif « Meshia », qu'on a francisé en « Messie », veut dire « être oint », »,« être consacré par une onction ». En langue grecque, « Meshia » a été traduit par « Christ ». Quel qu'il soit, un roi ou un grand prêtre, le Messie a donc une mission particulière qui est de libérer le peuple de Dieu. Mais dans le cadre de l'occupation du pays par Rome, il semble bien difficile que ce chef consacré par l'onction puisse exercer son pouvoir librement. Il ne pourra être un chef politique, un roi, sans recevoir l'assentiment de Rome, et cela est plus qu'improbable. S'affirmer roi Messie, c'est au contraire presque inévitablement entreprendre une lutte armée contre l'occupant romain pour libérer le pays. La question pour Jésus est donc une sorte de piège, ou bien il affirme clairement sa mission de Messie et il déclenche un processus politique de libération, ou bien il nie être le Messie et il perd alors la confiance que les foules mettent en lui. Et c'est peut-être le caractère épineux de cette situation qui explique la réponse de Jésus. « Les actions que je fais au nom de mon Père, c'est elles qui témoignent à mon sujet. » Ces actions, le récit de Jean vient d'en relater quelques-unes. En effet, Jésus a guéri de nombreux malades. Il libère de la paralysie, il libère de la cécité un aveugle de naissance. Mais il ne fait pas que guérir les corps, il guérit aussi les cœurs, puisqu'il a libéré de la condamnation à mort la femme adultère. En Luc, dans la synagogue de Nazareth, c'est dans des termes semblables que Jésus s'était présenté comme le Messie.
L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Il m'a fait Messie par l'onction pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Il m'envoie proclamer la liberté aux captifs et le retour à la vue aux aveugles. Je suis le bon pasteur.
Les actions de guérison, de libération qui sont opérées par Jésus sont donc celles d'un roi messie qui agit au nom de Dieu. Mais pour éviter l'image trop facilement guerrière de roi messie, Jésus choisit une autre image, celle du pasteur. Dans la Bible, le titre de pasteur était d'abord attribué à Dieu. Relisons quelques passages bibliques dans Isaïe, Ézéchiel et dans les psaumes.
Tel un pasteur, le Seigneur Dieu, fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble les agneaux. Il les porte sur son sein. Il procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent. Parole du Seigneur Dieu, moi-même je ferai paître mon troupeau. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui se sera égarée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. Le Seigneur Dieu est mon pasteur, je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me fait reposer. Il me mène près des eaux tranquilles et me fait revivre. Si je traverse les ravins de mort, je ne crains aucun mal.
Mener paître, c'est trouver la nourriture pour le troupeau. Et Jésus a apporté précisément la parole de vie qui vient de Dieu et qui est une parole nourrissante pour une vie spirituelle. C'est moi qui suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Les chefs, les rois d'Israël, autrefois se sont vus donner eux-mêmes ce titre de pasteur.
Dieu choisit David, son serviteur, pour en faire le pasteur de son peuple. Pasteur au cœur irréprochable, il les guide d'une main sage.
Donc pasteur au nom du grand pasteur qu'est Dieu, mais malheureusement les chefs ne sont pas toujours de bons pasteurs qui nourrissent le troupeau. Et c'est pourquoi les prophètes le leur disent souvent très vertement. Écoutons Ézéchiel.
Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les pasteurs doivent paître? Vous n'avez pas fortifié les bêtes chétives, vous n'avez pas guéri la malade, vous n'avez pas ramené l'égaré. Vous avez exercé votre autorité par la violence et l'oppression.
Les récits des évangiles nous présentent Jésus comme étant lui le véritable bon pasteur.
Jésus fut pris d'une grande miséricorde pour eux, car ils étaient comme des brebis sans pasteur, et il se mit à les enseigner.
À ceux qui lui reprochent de bien accueillir les pécheurs et de manger à leur table, Jésus va répondre en se comparant au pasteur. Le pasteur qui laisse les 99 brebis de son troupeau pour aller à la recherche de la brebis perdue. Et lorsque ses adversaires vont contester sa prétention à être le pasteur consacré par Dieu, Jésus va répondre en montrant que ceux qui l'écoutent et qui accueillent sa parole sont ceux qui sont en véritable communion avec le Père.
Mes brebis, écoute ma voix.
Il faut se souvenir qu'écouter dans la Bible signifie davantage que le simple fait d'entendre. Écouter, c'est accueillir la parole, l'accueillir dans sa vie jusqu'à la mettre en pratique. Jésus va expliquer pourquoi certains accueillent sa parole et d'autres la refusent.
Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. La raison pour laquelle vous ne les écoutez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu.
Ce que dit Jésus, c'est que ceux qui le refusent comme pasteur, ils le font parce qu'ils ne vivent pas en communion avec Dieu. La comparaison se comprend peut-être aisément si l'on reprend l'image des brebis. Dans la Palestine de ce temps-là, les bergers rassemblent en effet chaque soir les troupeaux dans les enclos des villages. Ces enclos sont gardés par crainte des voleurs et au matin, les bergers viennent chercher leurs brebis, alors ils se présentent à la porte de l'enclos et ils appellent les brebis. Chacune a un nom, car le berger les connaît, et chaque brebis connaît la voix de son berger. Rappelons-nous ici le sens qu'a le mot « connaître » dans la langue juive. Il s'agit d'une connaissance d'amour, d'une communion profonde entre deux êtres. On utilise ce mot pour désigner l'union entre deux époux. Et c'est à cause de cette connaissance d'amour que le troupeau va suivre son pasteur vers les pâturages. En effet, le troupeau ne suivra pas un pasteur qui n'est pas son pasteur. Le verbe suivre est celui qu'on emploie pour désigner un disciple. Le disciple est celui qui se met à la suite d'un maître. « Suis-moi », dit Jésus à Matthieu, à Philippe, à Pierre et à André. Si le pasteur est un bon pasteur qui aime ses bêtes, celles-ci le suivent. Elles marchent avec confiance derrière lui. Cette image décrit donc la relation que Jésus veut avoir avec ses disciples. Mais il ne dit pas seulement que ses brebis connaissent sa voix, mais qu'elles reconnaissent en sa voix la voix même de Dieu. Ses disciples sont donc ceux qui connaissent Dieu et qui reconnaissent dans sa voix, dans ses paroles, dans son enseignement, la voix même de Dieu le Père. Et quelle est la voix de Dieu ? Eh bien, c'est la voix qui jaillit de la miséricorde, qui jaillit de la miséricorde envers le paralytique et l'aveugle qu'il faut guérir même un jour de sabbat, qui jaillit de la miséricorde envers tous ceux qui souffrent de ne pas avoir une vraie vie spirituelle et qu'il faut nourrir de paroles qui sont vie et esprit, qui jaillit la voix qui jaillit de la miséricorde envers la femme condamnée pour adultère et à qui il faut redonner confiance en un amour plus vrai. Ceux qui ne reconnaissent pas la voie de la miséricorde, parce qu'ils font passer la justice, l'observance aveugle des lois, avant la bonté et le pardon, eh bien ceux-là ne peuvent prétendre être les fils et les filles d'un Dieu qui n'est qu'amour. Oui, seuls ceux qui vivent sur la longueur d'onde de l'amour peuvent reconnaître que l'enseignement de Jésus vient de Dieu. On pourrait reprendre ici le proverbe « Les oiseaux ont besoin d'air pour voler, les poissons ont besoin d'eau pour nager. Dieu, lui, ne se meut que dans l'amour. » Ainsi, qui n'aime pas de gratuité totale son prochain, inconditionnellement, celui-là n'est pas de Dieu, celui-là ne connaît pas Dieu. C'est ce que nous dira la première lettre de Jean.
Aimons-nous de bonté les uns les autres, car l'amour de bonté vient de Dieu. Et celui qui aime de bonté est engendré de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu.
Pour connaître Dieu, il faut en effet se laisser engendrer par lui, c'est-à-dire laisser sa parole pénétrer notre mémoire profonde, ce que l'on pourrait appeler notre code génétique spirituel, pour que cette parole devienne la mémoire qui nous fait agir, pour que cette parole façonne, informe l'esprit, notre esprit, et que ce qui va nous animer dans notre vie quotidienne. Si le Dieu tout aimant est vraiment devenu notre Père spirituel, alors nous reconnaîtrons en Jésus son envoyé parce qu'il est le pasteur rempli de bonté. Pour cela, il faut être à l'écoute de cette voix intérieure qui est précisément la voix de la bonté généreuse et du pardon.
Et moi, je donne la vie du temps à venir.
Et là encore, la comparaison avec le bon pasteur vient éclairer la mission de Jésus comme Messie. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis, disait la parabole.
Le mercenaire, à qui les brebis n'appartiennent pas, abandonne les brebis et s'enfuit quand il voit venir le loup. Le loup s'empare des brebis et les disperse.
Celui qui n'est pas le pasteur consacré par Dieu n'a donc pas le souci de l'unité et de la communion. Peu lui importe les divisions, les conflits qui détruisent la paix et étouffent la vraie vie. Peu lui importe que ces divisions rendent les gens malades de solitude, d'insécurité, de haine. Le voleur, lui, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Tandis que le Fils du Père vient pour donner la vie en plénitude. Jésus peut aller jusqu'à dire « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » L'enseignement de Jésus conduit en effet à la vie véritable. parce qu'il est l'apprentissage de l'amour. Au-delà de l'éros et même de l'amitié, l'amour enseigné par Jésus est celui qui est pure gratuité, un amour qui met son plaisir et sa joie à désirer, à vouloir que quelqu'un d'autre soit, et qu'il soit lui aussi aimant de gratuité. Un tel amour est fort contre toutes les formes d'égoïsme, de jalousie, de doute, d'insécurité, ces forces qui nous assaillent quotidiennement et qui nous conduisent à réduire nos relations humaines à la domination, à la possession, à la jouissance de l'autre. Celui qui, au contraire, se met dans la main de Dieu, l'aimant éternel, pour aimer comme lui, celui-là fait confiance à Dieu pour la vie du temps à venir, pour l'immortelle vie. La main de Dieu est celle qui bénit, guérit, relève. Voilà ce que signifie être sauvé. C'est vivre d'un amour qui est vie d'éternité parce qu'on vit dans la communion de Dieu Père. Cet amour qui est éternel, c'est celui de la bonté généreuse, inconditionnelle. Jésus se présente ici comme la main du Père. Le Père et lui ne font qu'un pour sauver, pour arracher de la mort spirituelle. Oui, personne n'arrachera les brebis de ma main, personne ne peut arracher de la main du Père. Pour être ainsi sauvé par le Père et par Jésus, il ne suffit donc pas de connaître Dieu d'une façon intellectuelle, ni de mener une vie conforme aux règles de la droiture. Il faut vivre avec le Père et Jésus une intense communion qui ne peut être que le fruit de la prière. Un moine de l'Église d'Orient exprime bien cela.
De beaucoup qui croyaient tout ce qu'il faut croire et qui menaient une vie juste et pieuse, nous pouvons nous demander, cette âme connaissait-elle le Sauveur? Le connaissait-elle d'une manière intime, comme on peut connaître son ami le plus proche, comme peuvent se connaître un homme et une femme qui s'aiment, comme seul peut être connu celui qui nous est plus intérieur que nous-mêmes? Une somme de connaissances acquises, et d'ailleurs vraie au sujet du Sauveur, se substitue souvent à la connaissance personnelle et profonde du Sauveur. Elle peut s'interposer comme un écran entre Jésus et nous.
Cette connaissance à laquelle nous invite Jésus, c'est celle de l'amitié la plus forte. Je vous appelle ami. Voilà l'image du pasteur, qui est maintenant reprise par l'image de l'amitié. La relation du pasteur et des brebis est la relation de Jésus devenant l'ami de chacun, de chacune de ses disciples. Cette amitié est forte, car elle a sa source, son inspiration, dans l'amour même du Père. Père, qu'il soit un comme nous sommes un. C'est une telle intimité avec Jésus qui permettra à l'apôtre Paul d'avoir une assurance indéfectible.
Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Écoutons le grand théologien, le père Congar, traduire combien cette amitié était en effet l'essentiel de sa vie.
S'il s'agit de ma vie telle que j'essaie de la mener au milieu des hommes, alors c'est Jésus-Christ qui en est la lumière et la chaleur, et par son Esprit Saint, le mouvement. Chaque jour, il m'interpelle. Chaque jour, il m'empêche de m'arrêter. Son évangile et son exemple m'arrachent à la tendance instinctive qui me retiendrait lié à moi-même, à mes habitudes, à mon égoïsme. Je lui demande de me faire cette miséricorde de ne pas me laisser à moi-même lié à ma tranquillité égoïste.
À la veille de sa mort, Jésus redira dans sa prière toute l'intensité de cette communion à laquelle il invite ses disciples. Qu'ils soient un, tout comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. À chacun de ses disciples, comme à Simon-Pierre, Jésus redit, après chaque éloignement, « M'aimes-tu ?» À chacun, chacune de ses disciples, Jésus manifeste sa tendresse en lui lavant les pieds. À chacune et chacun, Jésus redit sa joie, « Je ne t'appelle plus serviteur, mais ami, car je t'ai fait connaître tout ce que j'ai écouté de mon Père. » Notre amour mutuel se bâtira dans la communion de la mise en pratique de la pensée du Père.
Est-ce que je te connais vraiment, Seigneur Jésus? ou est-ce que je connais seulement ce que j'ai lu sur toi, ce que j'ai entendu dire de toi? Est-ce que ta parole est devenue, dans le cœur à cœur de la prière, la parole secrète de l'ami à l'ami? Ma nourriture quotidienne, celle qui fait vivre de Dieu? Est-ce que je sais d'expérience que tu as donné ta vie pour moi, toi qui as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime? Puisque ce don de toi est force de pardon et de guérison, ne permets pas que jamais je ne sois séparé de toi. Oh oui, que tu sois toujours pour moi, mon frère, mon ami, mon Seigneur. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110. Vous nous trouverez également sur Internet, l'adresse de notre site www.relaismontroyal.com, Relais Mont-Royal en un seul mot et sans trait d'union. Vous pouvez vous abonner au feuillet ou aux cassettes, téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs, le numéro 256-4110.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs, chères auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.